Cité Radio. Il est 13h. Vous êtes à l'écoute de Cité Radio, la positive info. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Tous les lundis en direct de 18h30 à 19h30, retrouvez le sport sur son 37, le rendez-vous sportif de Cité Radio. Durant 60 minutes, Benjamin Hermite, Kevin Laurent, Soline Desnaux et Guillaume Colomba décryptent tous les résultats et les actualités des clubs sportifs de Touraine en compagnie d'invités. Le sport sur son 37, c'est à ne pas manquer en direct le lundi à 18h30 et en rediffusion le mardi à 13h sur Cité Radio, la positive info.
Bonjour et bienvenue sur Cité Radio. Je suis aujourd'hui avec Olivier Renard, président de l'association Météo Centre. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commencer par vous présenter, expliquer un peu votre parcours?
Alors, du coup, Olivier Renard, moi, je suis fondé Météo Centre, même avant le côté associatif, en 2009. J'ai monté le site web tout seul, avec mon petit clavier. Et puis, en 2011, à la troisième version du site, comme tout ça marchait relativement bien, on a décidé de passer en association loi 1901. De formation, moi j'ai une formation en biologie générale et sciences de la Terre et de l'univers à la faculté d'Orléans. Et puis maintenant je suis professeur de sciences de la vie et de la Terre depuis 15 ans au lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux.
Et qu'est-ce que l'association Météo Centre ?
Alors du coup, la Météo Centre, ça regroupe en fait des passionnés de météorologie et de climatologie dans la région Centre. Dans la région Centre-Val-de-Loire, donc on est actuellement 170 adhérents, pour vous donner à peu près une idée. Et puis les trois grands axes de l'association, finalement, c'est à la fois de fournir des informations gratuites au grand public sur des phénomènes météo qui vont toucher notre région et notamment aussi l'Indre-et-Loire. Du coup, c'est dans un deuxième temps de créer un réseau de webcams météo, donc qui permettent une observation en direct, et puis aussi bien entendu, on a même commencé par là, c'est de construire du coup un réseau de stations météo semi-professionnelles que l'on déploie nous ou que l'on aide des particuliers à déployer. Et donc à l'heure actuelle, on a à peu près 80 stations sur la région Centre et les départements limitrophes.
Donc vous expliquez, vous aviez 170 adhérents. Comment est-ce qu'on peut devenir adhérent?
Alors du coup, il suffit d'aller sur le site du coup météo-centre. Tout en haut à droite, il y a un petit onglet adhérer, et puis ensuite, du coup, il suffit de se laisser guider. On a trois types d'adhésion. On a les adhésions à 17 euros par an. Alors, c'est de date à date. Hein. On adhère tel jour de mars, c'est jusqu'à tel jour de mars 2025. On n'est pas sur une adhésion annuelle comme la plupart des autres associations, puisqu'on considère que voilà, on a encore la capacité de suivre nos adhérents au jour le jour. Donc 17 euros voilà, pour une personne simple, 30 euros pour les couples et puis 50 euros pour les personnes morales.
Et quel est le rôle de ces adhérents ?
Pour certains, du coup, ça va leur permettre donc d'avoir des avantages, hein, par exemple de pouvoir avoir une webcam qui va être payée par l'association. Alors il y a quelques règles à respecter. Voilà, il faut que bien entendu, ça soit pas trop proche d'une webcam. Faut pas qu'on filme les voisins, parce que ce qui nous intéresse, c'est principalement le ciel, bien entendu. Ça va être d'avoir aussi un rôle à jouer. Et là, du coup, on fait notre assemblée générale en avril. Bah voilà, de pouvoir intervenir lors de nos assemblées générales, de prendre un part aux directions et aux objectifs que l'on va fixer, pouvoir donner son avis et puis voilà partager avec les autres passionnés au cours de ces journées, du coup des informations sur ce qui se passe chez soi, pouvoir discuter d'un phénomène marquant, notamment par exemple.
Et est-ce que c'est le rôle de ces bénévoles aussi du coup d'informer sur la météo ou eux ils sont juste là à installer justement une webcam ou une station?
Alors ça peut, bien entendu, on a par exemple deux nouveaux adhérents qui sont arrivés dans l'association il y a une quinzaine de jours et qui peuvent mettre, s'ils le souhaitent, à disposition leurs compétences. Alors là, c'est des compétences numériques pour nous aider justement sur la gestion des bases de données et toutes les datas qu'on peut créer au jour le jour avec le réseau de stations. Mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut simplement adhérer pour soutenir et puis justement, du coup, intervenir. Voilà, il y a un orage de grêle, envoyer une photo ou pas, c'est pas obligatoire, prévenir par les réseaux sociaux, nous envoyer un mail, c'est pas un souci. Ou alors, justement, du coup, décider au bout de une année ou deux, on peut avoir des gens qui pendant 5 ans nous ont soutenus, puis au bout de 5 ans, ils ont dit comme je trouve que ça marche bien et que dans l'ensemble je suis content de ce que vous faites, moi je suis prêt à suivre la presse, à me déplacer sur 5-10 km quand il se passe quelque chose. Puis nous, du coup, on fait un petit résumé de tout ça. Puis quand on a besoin, les contacts. Et après, de toute façon, il n'y a jamais rien d'obligatoire, bien entendu.
Donc, différents degrés d'adhésion possibles.
Exactement.
Et comment est-ce que vous financez tout le matériel ?
On a principalement du coup les adhésions, très clairement, hein, c'est quand même plus de, je crois que l'année dernière, c'est plus de 80% hein, de nos revenus. Après, on a un petit peu de publicité sur le site, donc mais bon, pour rester dans les lois de 1901, on est obligé de limiter. Et après, là, du coup, depuis cette année, la région Centre-Val de Loire nous a donné un petit peu d'argent justement pour nous aider pour tout ce qui est communication principalement. Donc ce qui fait que voilà, on peut déployer plus facilement des webcams finalement, parce que c'est quelques centaines d'euros. Donc on déploie plusieurs webcams par an. Là, on a notamment un projet par exemple à La Chapelle-sur-Loire, hein, dans l'Indre-et-Loire. Puis on essaye de financer de temps en temps des stations météo, mais c'est plus cher. Hein. Une station météo, c'est minimum en gros 1000 euros et ça peut aller jusqu'à 2000. Donc on essaye de fixer des objectifs à 3 années. En permanence, pour pouvoir se dire, voilà, une année 1, on fait plutôt de la webcam, une année 2, on fera plutôt une ou deux stations et très peu de webcam, une année 3, on fait sur les webcams pour continuer à déployer notre réseau.
Et pourquoi avoir créé cette association ?
Il n'y avait personne sur la région, et même si, en effet, il y a moins de phénomènes météorologiques que sur des zones de montagne ou sur des zones côtières. Hein. Moi, j'ai participé cette année aux rencontres nationales de passionnés. Je me suis un petit peu fait charrier parce que, oui, mais tu te rends compte, t'as fait une asso, il se passe jamais rien. Alors, c'est de la taquinerie gentille, hein. Il se passe bien entendu des choses. Mais c'est vrai que c'est moins riche, mais j'ai estimé à cette époque que, voilà, je vois pas pourquoi, même si c'était un petit peu moins riche, il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas une association de proximité pour regrouper ses adhérents et puis faire du travail sur le terrain et développer un réseau d'observation dans une région qui est quand même assez hétérogène. Et finalement, d'année en année, en densifiant les réseaux, on se rend compte que, bah oui, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer.
Et pourquoi c'est important pour vous de créer finalement ce réseau ?
Bah, parce que j'étais engagé en fait au niveau national jusque dans les années 2002-2003 et puis j'avais envie de faire plus de proximité parce que c'est vrai que bon, quand on écrit un article sur un épisode Cévenol, c'est bien, hein, c'est intéressant, c'est de la météo, mais faire de la météo avec des gens à proximité, c'est plus intéressant. Maintenant, le conseil d'administration, c'est vraiment une bande d'amis, on aime travailler ensemble. Ça se passe bien, il y a de bonnes relations, donc c'est assez intéressant. Et puis ça permet aussi, moi, d'un point de vue personnel, de toucher à d'autres choses qui peuvent être en lien avec mon métier. Voilà, en tant que professeur de terminale, j'ai à travailler sur météo et climat, donc ça m'apporte une vision différente des autres professeurs. Et puis là, on a eu la chance d'avoir un siège au Conseil supérieur de la météo. Donc maintenant, j'y siège régulièrement dans certaines commissions. Et c'est vrai que c'est intéressant pour un développement personnel, bien entendu, d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue professionnel. C'est très intéressant d'être un petit peu à la page de tout ce qui va se faire au niveau national et au niveau régional.
Et qu'est-ce que c'est le Conseil supérieur de météo ?
Alors, le Conseil supérieur de la météo, c'est en gros 400 personnes sont réparties dans différentes commissions qui font le lien entre l'État, Météo France, des passionnés de météorologie, puis tous les instituts, CNRS, notamment par exemple RGM, INRAE. Et voilà, en fonction des commissions, on va débattre de différents sujets pour voir ce qui va être mis en place au niveau de Météo France, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. C'est juste, en fait, voilà, c'est pas un organe décisionnel, mais c'est plutôt un organe délibératif où on va beaucoup discuter. Alors bon, des fois, on n'est pas content de ce qui va en sortir ou pas, mais dans l'ensemble, pour les premières commissions que j'ai pu mettre en place, ça se passe dans de bonnes conditions. Et je trouve que l'écoute est quand même assez intéressante.
Quels sont vos besoins aujourd'hui avec l'association Météo Centre ?
Toujours plus d'adhérents, toujours plus de passionnés, forcément. Hein. Regrouper vraiment voilà, toutes les personnes qui sont intéressées par ça. Et puis bah, après, des bénévoles, hein, bien entendu, éventuellement, hein, pour rentrer, pour renforcer l'équipe en termes de prévision, la gestion des réseaux sociaux, parce que on a une communauté qui approche des 70 000 et ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir gérer toutes ces personnes. Ils sont parfois particulière sur leur point de vue. Donc c'est vrai qu'on a eu un épisode de climato-sceptiques qui ont essayé de détruire un peu notre communauté cet été. Donc ça a demandé beaucoup, beaucoup de vigilance sur les réseaux. Et puis après, bah forcément, des personnes qui sont potentiellement voilà en capacité, comme je disais, de traiter des datas ou de donner un petit peu de leur temps pour faire des enquêtes de terrain quand il se passe un panorage de grêle sur une zone. Bah, nous, c'est vrai que on a bien entendu des adhérents sur la Touraine, hein, c'est pas le souci, mais enfin, ils sont pas forcément toujours disponibles. Donc, plus on a de personnes, plus on a potentiellement, entre guillemets, un vivier de personnes qui peuvent se déplacer, bah, plus on a de chances d'avoir une personne ou plusieurs personnes qui peuvent se déplacer, faire une étude et puis, du coup, faire remonter et pouvoir créer des articles en disant, voilà, on a un orage, il s'est passé ça, on a des photos, malheureusement, il y a des dégâts, il n'y a pas de dégâts, etc., etc.
Et je suis quand même assez curieuse de savoir qu'est-ce qui vous passionne dans la météo.
Alors, je pense que je suis tombé dedans assez petit. je me rappelle, hein, déjà, j'étais en primaire, petite classe, hein, CP, CE1, à regarder déjà les orages par la fenêtre, regarder la foudre tomber, écouter le tonnerre tomber. Et puis après, je pense que comme beaucoup en France, en fait, je fais partie de la génération des tempêtes Lothar et Martin de 1999, où voilà, il y a vraiment eu un choc en disant voilà, même si on est un pays où on était peut-être un petit peu moins, mais on était un peu protégé de tout ça, même si ça avait déjà existé, bien entendu. Bah, il y a eu un choc, il y a eu un déclic chez beaucoup de gens en fait avec ces tempêtes, et on a commencé à s'intéresser à la météo. Le système de vigilance de Météo France a été mis en place, et puis petit à petit, on s'est mis à ça. Puis moi, je suis chasseur d'orage aussi. Hein, on est beaucoup de chasseurs d'orage dans l'association aussi. Donc on a vraiment une passion à la fois pour les gelées, alors même s'il y en a de moins en moins, pour les épisodes de forte chaleur, malheureusement il y en a de plus en plus. C'est un domaine qui est très divers, on s'ennuie jamais parce que c'est jamais la même chose. Bon, même si des fois je dois avouer que après 13 ans de bons et loyaux services, il y a des fois où j'aurais bien pouvoir me prendre une semaine au calme. C'est cet attrait, c'est aussi la relation avec la nature qui finalement décide vraiment de ce qu'elle veut faire. On est là, on n'est pas là. Elle a décidé de faire passer un orage ici ou des pluies pendant 3 jours abondantes sur telle zone. Malheureusement, il va y avoir des conséquences, mais c'est elle qui a décidé, c'est pas nous.
Vous parliez de ces épisodes de chaleur et donc effectivement, depuis le début de 2024, on a enchaîné des températures plutôt douces. Puis ensuite, on nous apprend qu'il est tombé donc entre le 21 et le 26 février l'équivalent du double de pluie de la moyenne mensuelle en Indre-et-Loire. Est-ce que vous avez des explications pour ces phénomènes?
Alors en fait, c'est vrai qu'on a énormément de douceur. Alors on a eu un début janvier hein, qui a été plutôt dans les normes en fait d'un vrai hiver. Hein. Tout le monde a dit il fait froid, il fait super froid, mais en fait on était dans les normales, donc ça c'était plutôt pas mal. Ça a permis au moins d'arrêter un peu la végétation temporairement, et puis après on est reparti sur du doux, hein, voire du très doux. On a quand même eu jusqu'à 19,7 à Tours le 15 février, hein, donc c'est quand même des températures qui sont hyper importantes. Le mois de janvier avait été à peu près dans les normales hein, de saison. Par contre, c'est vrai que le mois de février, très très doux, on n'a quasiment pas eu de gelée. Hein. Je crois qu'on a eu une gelée, ce qui a sauvé, entre guillemets, le mois de février, le 28, hein, même pas moins 20, ce qui fait que s'il n'y avait pas eu cette gelée-là, je crois qu'il n'y aurait pas eu de gelée du tout du mois de février à Tours, ce qui aurait été inédit. Alors, ça a été le cas, par exemple, à Bourges. Hein. Ça fait 42 jours au cours de l'hiver sans gelée. C'est juste inédit depuis la création de la station de Bourges en 1945. Et là, en effet, on a eu ce gros épisode hein, de précipitation qui s'est vraiment mis en place à partir du 21 avec 21 mm, 11 mm, puis après ça continue, 3, encore 18, etc. C'est vrai qu'on a eu une récurrence, on a eu en fait une rivière atmosphérique qui s'est mise en place. Hein, donc on avait de l'air qui arrivait en fait des Antilles, hein, de l'air assez doux, forcément, on l'a remarqué, mais en plus qui est chargé d'humidité. Et donc du coup, on arrive en Chine, il s'est déchargé une grande partie de cette humidité, et ça a eu lieu pendant plusieurs jours de suite, hein, du coup, toute la fin février, et on a eu du coup des cumuls de pluie, en effet, qui ont été hyper importants.
Et est-ce qu'on peut dire que tout ça, c'est lié au réchauffement climatique, ou c'est plus des phénomènes météorologiques particuliers?
Plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'eau. Donc forcément, plus il fera chaud, plus l'air pourra se remplir d'eau. Et puis forcément, plus il pourra pleuvoir potentiellement. Après, c'est un jeu de placement entre des anticyclones et des dépressions. Et ça, le réchauffement climatique, entre guillemets, il est en rien là-dedans. C'est juste un phénomène qui s'est mis en place temporairement à ce moment-là sur notre région. Alors c'est vrai que par exemple, si on prend les Hauts-de-France, hein, tout ce qui est Pas-de-Calais, eux, ça fait 4 ou 5 fois que ce genre de phénomène se met en place. Alors, on sait hein, potentiellement qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir une répartition des précipitations qui sera très différente, potentiellement très différente de ce qu'on a pu connaître, c'est-à-dire des étés relativement secs et des hivers plus humides. Donc, dans cette optique-là, on est peut-être dans ça, avec justement du mois de février pour cette année qui sont un mois de février qui est très humide dans ce moment-là. Mais on peut pas dire c'est à cause du réchauffement climatique qu'on a eu ce phénomène. Oui. Ce phénomène, parce qu'il fait plus chaud, il a été exacerbé parce qu'il fait plus doux que d'habitude pour ce mois de février, donc on a eu plus de précipitations. Mais voilà, on peut pas, tout n'est pas lié à ça. Il y a une partie vraiment placement atmosphérique des centres dépressionnaires et anticycloniques, et en effet, le réchauffement climatique avec de l'air plus doux que la normale.
Et donc, on a l'impression quand même que depuis 2022, presque chaque mois est le mois le plus chaud jamais enregistré. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui risque de se poursuivre en 2024 ?
Alors, c'est vrai que quand on regarde les mois sur tour, pour retrouver un mois qui est inférieur au normal de saison, il faut remonter à janvier 2022. C'est-à-dire que depuis janvier 2022, tous les mois ont été, alors des fois très légèrement, hein, des fois c'est plus 0,5 degrés, hein, mais sur une température moyenne mensuelle, c'est quand même remarquable. C'est impressionnant cette série d'anomalies chaudes. En France, je crois que l'année dernière, c'est plus de 1000 records de température maximale battue pour peut-être à peine une centaine de records de France. Je crois que c'est même moins que ça, mais j'ai plus le chiffre exact en tête. Alors, c'est pas pour ça que cette année, ça va être exactement pareil. Ce que l'on sait, ce qui commence à se dessiner, c'est que le phénomène El Niño qui a lieu dans le Pacifique et qui a tendance à réchauffer l'ensemble de notre planète par son action, logiquement, est vu avec une forte baisse à partir de la fin de l'été. Donc peut-être qu'à partir de cette période-là, on aura des anomalies qui seront moins marquées, ou alors on va réussir à passer un peu dans le négatif. Mais c'est pas parce qu'un mois ou une succession, même si là c'est plus que notable, hein, c'est quand même assez exceptionnel, même si on a cette succession assez exceptionnelle qui s'est mise en place dans le temps, c'est pas pour ça qu'au mois de mars, on n'aura pas du coup plutôt froid. On peut difficilement se baser là-dessus. Après, on peut voir à nous sur le... C'est vrai que sur les tendances saisonnières là qu'on a prolongé jusqu'au mois de juin, bon pour le moment on voit pas de mois normalement froid. Des mois plus humides, oui. À partir de mai peut-être un peu plus de sécheresse, mais on voit pas d'anomalies froides pour le moment.
Et quel est l'impact de ces anomalies météorologiques en Centre-Val de Loire ?
On a des renforcements des sécheresses, donc le renforcement des sécheresses forcément l'été. Bah, mais certaines essences d'arbres du coup sont quand même moins dans leurs conditions optimales pour vivre, donc même certaines dépérissent. Donc si on a des arbres qui sont fragilisés ou morts, bah, on a un risque d'incendie, a fortiori lié à la sécheresse, qui est plus important. On a des débits d'eau, des rivières qui sont en baisse, du coup les nappes phréatiques forcément sont à des niveaux anormalement bas. Ça permet la progression de certaines espèces, je pense aux moustiques tigres, notamment dans certaines agglomérations ou métropoles, qui va très très vite parce qu'il n'y a pas assez de froid l'hiver pour tuer les larves, etc., hein, par exemple. Et puis, on a aussi forcément une végétation. Or, les espèces véritablement sont en train de dépérir parce que les conditions climatiques ne sont plus adaptées à leur survie. Là, on a les phénomènes qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire des faux printemps sur un mois de février. Et puis, bon, du coup, toute la végétation démarre. On a déjà des fleurs, on a déjà des arbres qui sont bien trop avancés pour la saison. Et si... au mois de mars ou au mois d'avril ou au mois de mai, on a des gelées, alors qui finalement sont pas si tardives de ça. Elles sont tardives parce que la végétation a beaucoup d'avance. Mais temporellement parlant, elles ne sont pas du tout en retard. Faut pas oublier que, par exemple, à Tours, logiquement, il devrait geler encore au moins presque 4 jours au mois de mars, encore une journée minimum, normalement, d'après les normales de saison, au mois d'avril. Donc, on a ce décalage qui se met en place, finalement, entre la végétation temporellement avancée dans le temps, en fait. On a l'impression vraiment que la végétation, là, elle a démarré mi-février, alors que logiquement, on peut encore avoir des périodes fraîches, voire froides, jusqu'en avril, alors, des fois même un peu plus tard sur le reste de la région. Et puis, une des dernières conséquences, l'été qui est à la fois en avance, c'est-à-dire qu'on peut avoir des températures maintenant très élevées. Hein, si je prends l'année 2023, c'est vrai qu'on a eu le premier 30 degrés, plus de 30 degrés, on a eu le 25 juin. Et on a eu jusqu'à plus de 30 degrés jusqu'au 2 octobre. Donc on a vraiment un mois, vraiment presque 5 mois d'été, ou 5 mois tout du moins, avec des températures potentiellement supérieures à 30 degrés. Donc forcément, pour les organismes, c'est pas bon. Même pour donner une idée, hein, c'est vrai que 2023 était très particulier. Les deux mois les plus chauds en 2023 l'été, c'est juin, avec une température moyenne d'environ 21,6. Après, c'est septembre, avec 21. Juillet avec 20,7 et août avec 20,6. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des mois, logiquement, de fin de printemps et début d'automne, juin et septembre, qui sont plus chauds que des mois d'été. Et donc là, c'est pareil, du coup, ça nous fait une période vraiment anormalement chaude. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent aussi, hein, cette répétition des températures vers 30 degrés, où on en a beaucoup trop. Hein. Si on prend 2022, bah, c'est pareil, on avait eu les premiers 30 degrés au 15 mai, c'était quand même remarquable. Et après, on a eu plus de 39 degrés en juin, en juillet, plus de 37 degrés en août, plus de 32 degrés encore en septembre. Donc, voilà, on voit vraiment des étés qui ont tendance à s'allonger dans le temps, à partir de, pour le moment encore juin, mais ça pourrait être mai, hein, et qui peuvent aller beaucoup plus loin jusqu'à septembre.
Est-ce qu'à l'échelle individuelle, il y a des mesures préventives qu'on peut prendre face à ces anomalies météorologiques ?
Alors, vis-à-vis de la température, des hautes températures, de toute façon, on revient toujours sur l'isolation des maisons, dans la mesure des moyens de chacun. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément une période qui est économiquement simple. Alors, même pour nous, on le voit au niveau des adhésions, on a plus de turnover au niveau des adhésions depuis un an ou deux, parce qu'on sent que même certains adhérents ont dit, écoutez, je peux pas adhérer maintenant parce que j'ai pas 17 euros à placer. Je dis, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Des fois, quand c'est vraiment des situations qu'on connaît, on peut laisser un petit peu de temps aux gens pour nous faire parvenir leur cotisation ou encaisser les chèques le mois d'après. Enfin, on se débrouille, hein, on reste humain, hein, on n'est pas une entreprise. Après, c'est essayer, mais alors c'est pas forcément simple à mettre en place rapidement, hein, mais créer de l'ombre sur sa maison en respectant les voisins, etc. Si on plante des arbres, bien entendu. Il y a malheureusement pas grand chose à faire, hein, quand la nature a décidé de vous mettre 39 degrés pendant 3 jours. De toute manière, à un moment ou à un autre, la chaleur finira par rentrer. Et à contrario, hein, si on a des températures qui redescendent vers moins 5, moins 10, forcément, il faudra chauffer, on n'a pas le choix.
Sur une note un peu plus positive, vous avez annoncé fin février que vous allez fournir des données climatologiques pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors du coup, en fait, on a été contacté par un des responsables des tirs sportifs sur Châteauroux et qui avait besoin en fait de données justement de température maximale et sur les rafales de vent, parce que c'est du tir qui se fait forcément en salle, mais pas que, mais aussi du tir à l'extérieur. Et donc du coup, on a eu la chance de pouvoir aller chercher des données climatologiques avec notamment le modèle ERA5 qui vient de Copernicus, qui sont des données qui sont libres d'accès. Et donc du coup, on a fait nos petits calculs parce j'ai la chance d'avoir dans mon équipe, hein, en tant qu'administrateur, un climatologue de formation. Et donc du coup, on a pu fournir ces données qui vont permettre du coup de mieux appréhender les risques qui pourraient y avoir justement sur cette période de JO, avec en effet, hein, des températures qui peuvent monter à plus de 35. Et puis sur les périodes estivales, c'est un petit peu moins marqué, mais on peut avoir quand même du moment où le vent est supérieur à 70 km/h, c'est complexe de maintenir des épreuves de tir, puisque forcément ça va quand même dévier les balles. Tout ça a été pris en compte, et donc on était content de pouvoir amener notre petite pierre à l'édifice à ces jeux qui sont organisés au niveau régional et national.
Et est-ce que vous avez d'autres projets futurs en préparation avec Météo Centre?
Alors du coup, on a plein de projets qui sont en train de se mettre en place, peut-être même un peu trop pour une équipe de bénévoles. Je parlais tout à l'heure, on a d'une webcam sur la chapelle sur Loire, on va faire notre assemblée générale du coup sur l'agglomération de Châteauroux en avril. On a d'autres projets de webcam et de station, notamment en Brenne, un petit peu au nord-est du Blanc. On voudrait essayer aussi d'implanter des stations météo et des webcams sur l'ouest Touraine, parce que c'est une zone malheureusement qui pour le moment on a du mal à s'implanter. Donc ça serait pas forcément pour 2024, mais sur 2025, on fait appel aux personnes qui seraient potentiellement intéressées pour qu'on puisse développer notre réseau dans cette zone, parce qu'on a du mal à aller travailler par là. Alors, on a eu la chance l'année dernière de faire un partenariat avec le Château d'Amboise et de les aider dans leur transition écologique avec l'implantation d'une station météo pour qu'ils puissent réguler un peu plus leurs arrosages et puis avoir une meilleure connaissance de l'humidité du sol. Mais voilà, donc après, oui, c'est des projets, mais sur le Loir-et-Cher, on devrait implanter une station météo à Blois. Sur Sancerre, on devrait avoir une webcam qui va se mettre en place aussi. On a d'autres projets sur l'Eure-et-Loir. Voilà, on a quand même une petite dizaine de projets qui sont en train de se dessiner. Alors, parfois avec des particuliers, parfois avec des métropoles, ou des communes. Donc, ce qui prend toujours plus de temps, ça fait un petit peu plus administratif, mais dans l'ensemble, ça se passe relativement bien.
Et pour conclure, est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs, un message que vous souhaitez faire passer ?
Il faut vivre avec son temps, et c'est vrai que À l'heure actuelle, on est toujours dans ce contexte de réchauffement climatique, hein, donc c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais il faut bien penser à faire la différence et à s'informer sur les bonnes sources, croiser les informations, parce qu'on a malheureusement une toute petite communauté de gens, en fait. Alors, il y a un effet zoom, hein, c'est-à-dire qu'on les met beaucoup en avant, les climato-sceptiques, mais ils arrivent à faire quand même beaucoup, beaucoup de mal et à désinformer une partie de la population. Donc n'hésitez pas à venir poser des questions sur nos réseaux, alors pas forcément que sur Météo Centre, hein. Vous pouvez aller sur d'autres associations, je pense à Info Climat, l'Association Nationale, ou sur d'autres sites, hein, institutionnels, la Météo France, etc., bien entendu. Mais il faut pas s'enfermer, voilà, dans des croyances. Alors beaucoup de gens disent oui, mais vous n'êtes pas encore sûr à 100%, par exemple, est-ce qu'il y aura plus d'orages avec le réchauffement climatique? Donc on a beau expliquer qu'on a encore des limites informatiques, des limites de coûts aussi, hein, tout simplement. Il ne faut pas tomber, entre guillemets, dans l'obscurantisme et essayer d'aller de l'avant. C'est important. Si on tombe tous dans l'obscurantisme, on va pas avancer. Et je pense qu'on n'arrivera pas à régler un problème qui est déjà particulièrement épineux.
Donc on peut vous retrouver sur votre site internet météo-centre.fr, les réseaux sociaux. Exactement. Également, Facebook, Instagram. Est-ce que vous avez un mail ou un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter?
Non, numéro de téléphone, non, c'est mon personnel, donc je ne le donne pas. On préfère pas mettre d'argent dans un forfait. Mais voilà, c'est pareil sur le site, hein, il y a un formulaire de contact, donc on essaie d'être le plus réactif possible pour répondre. C'est souvent de l'ordre de 48 heures ou 72 heures, donc on sera à plaisir de répondre aux questions.
Eh bien, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir suivi et merci à Olivier Renard de nous avoir répondu. Excellente journée à tous sur Cité Radio.
Vous êtes toujours sur Cité Radio, la positive info. Merci à tous pour votre fidélité et nous allons continuer dans un instant avec les bons plans, mais tout de suite, retour de la musique.
Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foie, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Il parle des voitures.
tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit.
La Positive Info, c'est en Touraine que ça se passe, avec Cité Radio. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Bonjour, c'est Ligaïa. Savez-vous qu'en Touraine, il se passe énormément de choses et que l'économie est très dynamique ? Dans mes rendez-vous de Ligaïa, je vous propose chaque semaine de partir à la rencontre d'hommes et de femmes qui agissent sur notre territoire pour le rendre toujours plus attractif. Alors je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.
Les rendez-vous de Ligaïa, c'est tous les jeudis et dimanches à 13h sur Cité Radio, la positive info.
Merci à tous pour votre fidélité à Cité Radio et nous poursuivons notre programmation avec le Business Club de France des entrepreneurs animé par Michel Picot.
Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot.
Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, place à l'actualité des PME dans nos territoires.
Elle est partie d'Olympie en Grèce et arrivera en France après son voyage à bord du Bel M, un trois-mâts de 1896 qui la transportera donc du 27 avril au 8 mai d'Athènes à Marseille. Première étape en France donc pour la flamme. Ensuite, c'est un vrai marathon qui s'annonce pour cette flamme qui traversera 64 départements, 400 villes avec 10 000 porteurs sur 12 000 km. Alors, quelles sont les retombées économiques de cet événement sur nos territoires ? Plusieurs départements, dont le Rhône, la Loire-Atlantique ou encore les Côtes-d'Armor, ont refusé de s'acquitter des 180 000 euros demandés par le comité des Jeux. Trop cher. Pour les autres, s'ajoutent à ces 180 000 euros des frais engendrés. À titre d'exemple, Avignon va ainsi dépenser 300 000 euros en plus. Nouvelle identité pour le groupe de restauration La Boucherie. Le groupe va reprendre le nom de son fondateur pour s'appeler Groupe Bauder. Le but de l'entreprise, dont le siège est à Angers, est de fédérer sous une même bannière les 7 marques et 230 restaurants du groupe, sans compter les 3000 salariés. Parmi ces marques, vous pouvez trouver La Boucherie, Courte Paille, rachetée récemment, mais aussi Poivre Rouge ou encore le Bistrot du Boucher. Roscoff, en Bretagne, l'entreprise Pera Pharmaceutical travaille sur un médicament qui réduirait les effets de la trisomie 21. Une avancée médicale, alors que cette maladie génétique concerne entre 50 000 et 70 000 personnes en France. Un reportage de TBO.
Pourra-t-on un jour réduire les effets de la trisomie 21 ? C'est en tout cas le projet de l'entreprise Pera Pharmaceuticals basée à Roscoff. Cette maladie génétique est à l'origine de difficultés d'apprentissage et de mémorisation chez les personnes. C'est dans ce laboratoire que les équipes ont identifié la cause de ces symptômes.
Et cette anomalie vient de l'expression élevée d'une protéine qui s'appelle DIRCA et qui est la cible de nos candidats médicaments. Donc nos produits, ou notre produit, la leucétinib 21, inhibe et bloque, ralentit cette protéine, DIRCA, et en diminuant légèrement son activité, elle corrige ses déficits d'apprentissage et de mémorisation.
La trisomie 21 est une maladie génétique due à la présence de 3 chromosomes 21. Il est impossible d'en guérir, mais l'objectif du médicament est d'en réduire les symptômes. L'espoir est aussi permis pour les patients atteints d'Alzheimer. Un lien a été établi entre les deux maladies.
Au début, c'était vraiment très séparé, jusqu'au moment où les gens se rendent compte que sur le chromosome 21, il y a 3 gènes qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Mais malgré tout, les gens c'était assez séparés. Et ensuite, petit à petit, les chercheurs se sont dit, mais finalement, la trisomie 21, c'est une forme accélérée d'Alzheimer.
Le candidat médicament doit d'abord être testé avant d'être commercialisé. Des essais cliniques ont débuté sur 96 personnes volontaires. La phase 2 des tests, qui vise à évaluer l'efficacité de la molécule, pourrait commencer en 2025.
La savonnerie Sablaise est, comme son nom l'indique, installée au Sable d'Olonne. Cette savonnerie artisanale crée, fabrique et distribue une large gamme de produits naturels et bio pour les adultes et pour les enfants. Extrait du Mag Echo de TV Vendée, présenté par Catelgen.
Bonjour et bienvenue dans un univers de bien-être. Nous sommes aujourd'hui à la savonnerie Sablaise au Sable d'Olonne. Donc, je vous laisse imaginer la palette odorante qui nous envoûte dès l'entrée dans la boutique. aloe vera, miel, lait de brebis ou encore thé vert. Voici quelques-uns des ingrédients naturels et bio utilisés ici dans cette savonnerie artisanale qui crée, fabrique et distribue une large gamme de produits allant du savon au baume à lèvres en passant par le dentifrice en poudre. Dans un savon, 100% des agents sont actifs. C'est pourquoi la méthode ancestrale de la saponification à froid a été choisie. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Patricia Garando, la gérante et savonnière de l'entreprise. Bonjour Patricia.
Bonjour Catel.
Eh bien écoute, on est ravis de venir découvrir ton entreprise.
Ah mais
donc,
de même.
La savonnerie Sablaise.
Oui.
Dont tu es à l'origine, que tu as créée il y a quelques années.
Oui.
Alors explique-nous un petit peu comment les savons en général sont rentrés dans ta vie.
Oula. Alors, après 26 ans d'activité dans le laboratoire d'analyse médicale.
D'accord.
Bon, plus que ça, il y a eu aussi dans ma vie en 2015 des gros changements personnels.
Ouais.
Qui ont fait que je me suis vraiment posé des questions sur quelque chose qui... Repartir sur quelque chose qui pouvait me passionner dans la vie.
Ouais.
Retrouver vraiment une activité qui me fasse vibrer. Et puis, lors de petites vacances dans le sud, hein, j'ai rencontré la route d'un savonnier.
Ah !
Tout simplement.
D'accord.
Et quand je suis rentrée dans son univers, ah ben là, j'ai ressenti une telle émotion.
Ça t'a donné envie ?
Ah oui, mais carrément. Là, je me suis ressentie dans mon univers. J'ai toujours aimé, quand j'ai fait mes études de laborantine, je voulais continuer dans le domaine des plantes.
Ouais.
J'en ai pas eu l'opportunité. Et ben voilà, je reviens aux sources.
Okay.
Puisque les savons, c'est des huiles, donc des plantes. Beaucoup de recherche, beaucoup de créativité.
Ouais. Et donc
voilà.
Ça, c'était en quelle année alors ?
Découverte, fin 2015-2016.
D'accord, ok. Et
voilà.
Donc toi, t'habitais déjà au Sable d'Olonne ?
Ah oui, je suis sablaise d'origine, j'habitais au Sable, oui,
et donc,
bien sûr.
Tu t'es dit, ok, ça me plaît, mais au point, je veux dire, de se dire, ok, je vais lancer mon entreprise. Tu aurais très bien pu commencer par faire des savons chez toi et ce serait resté ça.
Alors,
finalement.
J'ai commencé par faire ça déjà pour tester et voir tout ce que ça pouvait apporter comme bienfait. Et puis, bah oui, ça a été très vite une évidence. J'ai fait une étude de marché pour savoir sur le secteur s'il y avait des savons.
Il ne devait pas y en avoir beaucoup à l'époque.
Non,
il y en a beaucoup plus depuis.
Il y a une très bonne savonnerie sur les Herbiers qui existe toujours,
ouais.
Mais il n'y en avait pas.
Ah.
Et du coup, alors c'était pas du tout tendance, hein, les cosmétiques,
oui.
En 2015-2016, les cosmétiques naturels n'étaient pas du tout tendance,
ouais.
Mais je sentais le frémissement de la part des gens d'avoir envie de retrouver des bons produits.
Mmh.
Un peu marre de se retrouver avec des problèmes de peau, des allergies, de l'eczéma,
mmh.
Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Et puis voilà, c'est vrai que bah de là, tout a démarré. La petite graine a commencé à germer dans le cerveau. Et puis après, bah, ça a été que s'amplifier.
Après, tu t'es formée. Et
voilà.
Après, voilà, tu as lancé cette marque.
Et voilà, l'aventure a vraiment démarré avec 10 formules au départ.
Grâce à un mois de mars particulièrement pluvieux, le département du Gard échappe pour l'heure à la situation de sécheresse précoce qu'il avait connue en 2023. Pour l'anticiper et y faire face, des initiatives sont menées. La dernière en date, l'est sur le bassin de la Cèze, où le syndicat mixte AB16 vient d'organiser l'opération de l'eau de pluie pour l'été. Une opération destinée à généraliser chez les particuliers les récupérateurs d'eau de pluie par une prise en charge partielle de leurs coûts. Les explications d'Olivier Michel de Via Occitanie.
Donc on a doublé les commandes quasiment pour pouvoir répondre à la demande des clients parce qu'on était tombé en rupture quasiment mi-mai, donc très tôt dans la saison, et on a eu de la demande tout l'été.
Ils ont désormais la forme de jarres, de tonneaux ou de murs de pierre et le marché est en plein essor. Les récupérateurs d'eau de pluie sont des produits en vogue face au risque de sécheresse et à la pénurie d'eau.
On a du basique comme ça, c'est du 300 litres. L'idée, ça va être de le placer discrètement sous une gouttière. Et après, pour les gens qui souhaitent vraiment récupérer en plus grosse quantité, on vend beaucoup de 1000 litres. Là, qui ont vraiment des formes cubiques et qui sont un peu plus brutes et qu'on peut assembler les uns à côté des autres pour vraiment avoir une grosse capacité de stockage. Il y a aussi des produits qu'on travaille un peu moins, qui sont des récupérateurs d'eau beaucoup plus design, en forme de jarre, etc. L'idée, c'est que ce n'est pas forcément des produits qui sont très esthétiques, et de pouvoir les faire rentrer dans la décoration de la maison, ou en tout cas les insérer discrètement chez soi. Quoi.
Un outil de préservation de la ressource qui est au cœur d'une opération de sensibilisation d'AB16. Le syndicat du bassin de la Cèze, touché par des restrictions d'eau en 2023, dès le 18 avril, a cette année proposé une prise en charge de 50% du prix des récupérateurs, plafonné à 100 euros.
Nous, le bassin de la Cèze, il est en manque d'eau, en déficit, on dit. Donc chaque année quasiment, donc on est obligé d'essayer d'économiser ou de garder l'eau sur le territoire. Donc on travaille plutôt avec les professionnels et il y a une nécessité aussi, et c'est une volonté de nos élus, de travailler avec le grand public pour essayer de garder le maximum d'eau sur le territoire, parce qu'on le voit avec le changement climatique, on a plus de chaleur. On a des prélèvements en eau qui sont assez réguliers et constants, et beaucoup plus l'été avec le besoin agricole ou touristique. Et donc du coup, on a une volonté d'essayer de mettre en place des actions un peu nouvelles là-dessus, sur cette thématique-là, pour inciter les gens à ce qu'ils gardent l'eau chez eux et qu'ils puissent la réutiliser l'été, la prélever hors saison et la réutiliser l'été.
L'opération a été victime de son succès et a dû être stoppée au bout de 2 jours. 250 habitants ont répondu à l'appel, preuve de la prise de conscience de la rareté du bien.
Dans l'Aube, en 2023, les ventes de chaourts ont diminué de 2%. Un bilan en demi-teinte pour le syndicat de défense du fromage de chaourts, réuni récemment à l'occasion de la traditionnelle Assemblée Générale. Pour trouver une croissance positive, les producteurs souhaitent continuer à faire connaître le fromage au bois. Les détails dans ce reportage de Canal 32.
À Chaourts, l'heure est au bilan. Pour les producteurs du fromage au bois, 2023 était une année en demi-teinte. Les volumes commercialisés ont diminué de 2%.
La baisse a été concentrée surtout sur le premier semestre 2023 en raison du climat général inflationniste où les consommateurs ont changé un petit peu leur comportement d'achat. Et on retrouve des volumes en croissance depuis la fin de l'année 2023 et début 2024. Donc on n'est pas trop inquiet pour l'avenir. Simplement, c'est vrai que ce sont 2 années de suite qui enregistrent une baisse de volume. 2022 et 2023. Mais dans un contexte qui est explicable. Dans la plupart des appellations d'origine fromagère, les volumes sont en baisse en 2023. Nous ne sommes pas les seuls concernés.
Pour retrouver une croissance positive, l'objectif est désormais de renforcer la notoriété du produit, notamment en accentuant la communication.
On va inspirer un nouveau souffle du coup au niveau de la communication pour essayer vraiment de poursuivre les efforts pour faire connaître le chaourts. Et du coup, en fait, c'est ça qui nous permettra de vendre plus et du coup de transformer plus.
En 20-25 ans, il y a eu une forte identification de la filière, des producteurs, un renforcement au niveau des transformateurs, notamment de la qualité, de la notoriété. Un gros travail de cohésion de l'ensemble de la filière, une belle identité locale. On doit continuer à s'appuyer sur ces fondamentaux.
Parmi les principales opérations de communication, la Chaourts Week, la 4e édition de l'événement est en préparation.
On va renouveler cette année. On demande à tous les restaurateurs donc de l'aire géographique de production du chaourts, donc de l'Aube et de Lyon, de mettre à l'honneur le chaourts, donc soit via des recettes, soit des accords mets et vins. L'année dernière, pour la 3e édition, on avait quand même une belle hausse au niveau de la participation. On espère encore avoir plus de participation cette année, puisque l'événement, ça va être la 4e édition, est déjà plus connu au sein du secteur. Et puis, on va étendre également à la ville de Dijon, donc pour essayer de toucher de nouveaux consommateurs.
Début 2024, les producteurs de chaourts étaient présents au Salon de l'agriculture organisé à Paris. Une occasion de mettre en avant la spécialité auboise à l'échelle nationale.
Merci d'avoir suivi cette édition du Business Club de France des entrepreneurs, émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en audio podcast. Vous pouvez nous écouter dans votre voiture. Abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes. Enfin, merci également aux radios qui diffusent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
Retour de la musique sur Cité Radio, voici Dernière Danse interprétée par Kyo et Cœur de Pirate.
J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse.
connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage.
Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse.
Je peux mourir demain, ça ne change rien. J'ai resté de ses mains, le bonheur ancré dans mon âme. C'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie avant l'ombre et l'indifférence.
Vous êtes bien branchés sur Cité Radio et La Positive Info. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui et cela nous fait très plaisir. Guillaume est avec vous derrière le micro et nous partons maintenant pour un instant 100% musique française accompagné d'idées sorties à faire en Touraine. Et sans plus tarder, nous écoutons un premier bon plan. Bonne journée à notre écoute.
Cité Radio, les bons plans.
Rendez-vous du 2 février au 16 juin au Centre de création contemporaine Olivier Debré pour découvrir Fragment 91. Lauréat du prix Mécénat Touraine Entreprise en 2022, Dieudonné Cartier présente cette exposition comme un laboratoire où l'artiste développe un parcours à la confluence des protocoles scientifiques, économiques et artistiques. Son projet inédit explore la question très contemporaine des data et du flux de données numériques. À travers différents prélèvements effectués dans la Loire, l'eau est ici envisagée comme la matière première et vivante de ses recherches qui traduisent les données chiffrées en objets artistiques. Détaché de ses fonctions premières, le langage mathématique est utilisé par l'artiste pour son caractère énigmatique et abstrait qui le replace dans le domaine du pictural et de la création de formes. L'exposition Fragment 91 est donc à ne pas manquer dans les galeries du CCCOD jusqu'au 16 juin 2024. Le lieu est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h et le samedi jusqu'à 19h. Toutes les informations sont à retrouver sur le site cccod.fr. Merci d'être sur Cité Radio, la programmation revient tout de suite. Excellente journée à tous.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio.
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent. Des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond. Des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents. Des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud. Des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et il y a des gens d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Il y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y'a des gens de la nuit, y'a des gens du mat, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Y'a des gens qui saoulent et des gens sous l'agent, des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et y'a des gens changeants et y'a des gens stables, des affligeants et des remarquables, des gens de l'est, des gens à l'ouest, des gens qui vont, d'autres qui restent. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y'a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et y'a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Y'a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Y'a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Y'a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça, et dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux.
Un bon. Du patrimoine français. Pas moins de 41 des plus beaux châteaux de la Loire sont reproduits à l'identique à l'échelle à 25e, allant d'Amboise à Blois et de Chambord à Villandry. Vous pouvez aussi profiter des espaces ludiques et des attractions, que ce soit en famille, en couple ou entre amis. Le parc des mini-châteaux est ouvert toute l'année de 10h à 18h à Amboise. Toutes les informations sont à retrouver sur le site parcminichâteaux.com. Restez branchés sur Cité Radio car la programmation revient tout de suite. Passez une bonne journée à notre écoute.
À Chambray-les-Tours, on écoute Cité Radio sur le 89.3.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle?
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol,
un petit coup de gnoll.
Les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères,
l'odeur de cette terre,
plus sur les monétières.
C'est pire qu'un testament,
au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, d'où on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête.
Acceptez ma rengaine,
elle veut juste dire je t'aime.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être
j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Toujours de la bonne musique à écouter sur Cité Radio, La Positive Info. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, c'est Guillaume et je suis ravi d'être avec vous encore aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le 89.3 FM et le DAB+ à Tours et partout dans le monde sur notre site citéradio.fr. L'instant 100% musique française et idées sorties Tourangelle continue et nous vous proposons maintenant une nouvelle idée sortie.
Cité Radio, les bons plans.
Un bon plan exposition avec Sortir le travail de sa nuit. Celle-ci souhaite ouvrir la voie à une réflexion transversale sur la notion d'invisibilité. Il y est question de travail invisibilisé, de mécanismes globalisés, omniprésents et structurants, et de voix qui ne parviennent pas à porter, restant inaudibles, des sphères publiques. Il s'agit aussi d'élargir l'horizon pour examiner les phénomènes de la disparition et de l'effacement selon une focale plus esthétique, philosophique et poétique. Le parcours de l'exposition se déploie selon trois axes thématiques, le travail des femmes et du soin, les échanges mondialisés où se croisent les mouvements des marchandises et la migration des êtres, ou encore le travail numérique dématérialisé et ses nouvelles formes d'exploitation cachées. L'exposition collective Sortir le travail de sa nuit est à découvrir jusqu'au 1er septembre 2024 au Centre de création contemporaine Olivier Debré. Le lieu est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h et le samedi jusqu'à 19h. Informations à retrouver sur le site cccod.fr. Retour de la programmation tout de suite sur Cité Radio. Excellente journée à tous.
L'actu locale en Touraine, c'est sur Cité Radio 89.3.
Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder. Quand elle attendait gentiment que je vienne au monde, je suis venu sachant qu'on ne voit vraiment jamais, non jamais, si bien qu'avec le cœur. On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas, en mettant parfois nos foies dans le plus gris des états. On oublie qu'on est bien que de l'intérieur, ça n'enlève pas les pleurs. Mais moi, je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois, étant aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Les oiseaux les plus bruyants, les plus coucou, je suis là, ne sont pas les plus aimants, enfin ça dépend, je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Oh. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Au soir. Qu'aiment les hommes qui ne s'aiment pas. Je suis souvent demandé ce qu'aiment les hommes qui ne s'aiment pas. Moi je m'envole, je m'en vais. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi.